Vous écoutez RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre premier grand jury, c'est toujours un événement. Pour vous interroger, à mes côtés, Adrien Gindre de LCI, bonjour.
Bonjour.
Et Alexis Brézé du Figaro. Et puis dans cette émission, il y a une séquence droit de suite avec les réactions, les questions des auditeurs et téléspectateurs. Et c'est Marie-Pierre Haddad qui nous rejoindra pour relayer ses commentaires et vous poser ses questions. Vous pouvez tous nous envoyer vos commentaires d'ailleurs sur Facebook, RTL.fr également et Twitter. Vous avez, Agnès Buzyn, le portefeuille le plus important, le plus étoffé de ce gouvernement. Mais d'abord, avant d'aborder le sujet qui est votre plus grande part en ce moment, c'est-à-dire le budget, il y a des questions de harcèlement sexuel et d'agression. Vous dites vous-même que vous en avez été victime quand vous étiez dans le milieu hospitalier, en tous les cas de harcèlement moral. Puis éventuellement quelques propos un peu déplacés, mais il y a surtout ce hashtag « balance ton porc » qui se propage sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette expression vous choque ? Est-ce que vous y voyez une forme de délation ?
Alors, on arrive après 20 ans ou 30 ans de situations où les femmes ne se sentent pas entendues. Et quelque part, cette initiative permet aux femmes de libérer leur parole. Je ne pense pas que ça ait vocation à durer de cette façon-là. Ça permet une prise de conscience. Il n'y a qu'à voir l'impact que ça a aujourd'hui dans les médias. Donc, une vraie prise de conscience collective, y compris chez les hommes, parce que je crois que les femmes le savaient toutes depuis longtemps. Et donc, c'est ce qui fait basculer une société à un moment. Je ne souhaite pas que ce soit l'unique façon de régler les sujets. Je pense qu'il faut que les femmes portent plainte et qu'elles soient maintenant entendues, que ce soit simplifié. Voilà, il faut parfois des initiatives un peu fortes et un peu brutales.
Un peu électrochoc, quoi.
Voilà.
Adrien Gindre.
Un député de La République En Marche, Christophe Arendt, élu de Moselle, est visé par une plainte d'une ancienne collaboratrice pour des faits que Benjamin vient d'évoquer. Deux questions. Est-ce que, malgré ses soupçons, il peut rester parlementaire ? Et est-ce que, si ces faits sont avérés, il pourra rester à son poste.
On va laisser évidemment la justice faire son travail. S'il y a plainte, il y a évidemment une enquête. Et en fonction des résultats de l'enquête, s'il est mis en examen ou s'il y a la moindre... Si la réalité, effectivement, est au rendez-vous, je pense qu'il n'a plus sa place.
Vous souhaitez qu'il démissionne de son mandat à cette occasion ?
Je souhaiterais que, si les faits sont prouvés, à un moment... on prenne les décisions qui s'imposent pour que, enfin, les femmes soient reconnues dans leur souffrance.
On va passer maintenant donc au budget, puisque c'est le budget de la Sécurité sociale sera présenté, examiné à l'Assemblée nationale à partir de mardi. Et parmi les augmentations qui sont prévues dans ce budget, eh bien, il y a le tabac, Alexis Brézé.
Oui, c'est une des points qui retient l'attention dans votre budget, c'est le fait que le paquet de cigarettes va passer progressivement à 10 euros d'ici 2020. Ce qui, évidemment, pour les fumeurs, est assez considérable. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'au bout de cette affaire et dire qu'on interdit le tabac dans les lieux publics, sur les parcs, dans les trottoirs? Est-ce qu'au fond, vous ne vous dites pas qu'il faudrait interdire totalement le tabac?
Agnès Buzyn.
C'est une excellente question, on peut le voir de cette façon-là, mais dès que vous mettez une interdiction, vous avez un trafic. Et vous avez de la fraude et vous avez des circuits parallèles. Et donc à l'arrivée, on a interdit l'alcool, vous le savez bien, aux États-Unis à une certaine période. On ne peut pas dire que ça ait simplifié la situation, ni assaini la situation.
Donc pas de prohibition.
Donc la prohibition, je n'y suis pas du tout favorable en général. Il y a des pays entiers où le taux de tabagisme aujourd'hui est autour de 12-13%, la Californie. Donc on est proche de zéro. Et je crois que progressivement, notre société va éliminer...
Et que l'augmentation du prix va permettre ça.
À ça, on le sait, 10% d'augmentation du prix du tabac aboutit à 4% de réduction de la consommation.
Enfin,
toutes les
le paquet neutre était censé baisser la consommation de tabac et visiblement, ce n'est pas aussi clair que ça, Agnès Buzyn.
Alors, pour les experts, le paquet neutre servait surtout à éviter l'entrée dans le tabagisme des jeunes, parce que les jeunes commencent à fumer souvent sous l'impulsion ou l'envie d'une marque qui signifie quelque chose à leurs yeux.
Et c'est réussi ?
Alors, sur les jeunes, nous n'avons pas les chiffres. Donc, on a un taux de tabagisme global et nous ne savons pas si ça a un peu réduit la consommation chez les jeunes. Pour ma part, j'ai toujours prôné l'augmentation du prix du tabac quand j'ai été responsable de l'élaboration du plan cancer.
Et on s'arrêtera à 10 euros ?
Pour terminer, je me suis battue pour l'augmentation du prix du tabac. C'est un arbitrage que je n'ai pas eu. lors du quinquennat précédent. Mmh. Et donc, je suis contente en tant que ministre de pouvoir enfin porter un arbitrage favorable
10 euros.
Par rapport à mes convictions.
C'est un plafond qu'on ne dépassera plus.
Non, je ne sais pas, on verra. Vous savez, New York vient de passer de 10 à 13 dollars brutalement en un mois, mm-hmm. Le prix du paquet de cigarettes. Donc aujourd'hui, j'avais dit 10 euros dans le courant du quinquennat. C'est 10 euros en 3 ans que nous avons décidé de faire. C'est une marge
importante.
Donc
d'ici, 2020, mais d'ici 2022, est-ce que ça peut être davantage d'ici la fin du quinquennat que 10 euros?
Aujourd'hui, ça n'est pas du tout dans le débat. Je voudrais voir l'impact de ces 10 euros en 2020, et nous aviserons, mais l'objectif n'est pas de monter indéfiniment. L'objectif, c'est que réellement les Français prennent vraiment conscience que c'est anormal de fumer et que notre pays est anormal. Dans ces chiffres de tabagisme, nous sommes le pire pays au monde pour le tabagisme des femmes entre 20 et 50 ans.
Alexis Brézé.
Est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'harmonisation européenne? Parce que vous parliez des trafics, mais si les cigarettes sont vendues deux fois moins chères à nos frontières, ça crée des trafics et ça, dans une certaine mesure, ça atténue l'effet des mesures que vous voulez prendre.
Absolument.
Agnès Buzyn.
Gérald Darmanin et moi-même avons pris des engagements très fort vis-à-vis des buralistes qui, effectivement, sont en difficulté face à ces trafics et à la fraude. Donc, nous allons renforcer la lutte contre la fraude. Et notamment, il y a eu tout récemment plusieurs tonnes de cigarettes qui viennent d'être arrêtées à nos frontières. Donc, nous savons que ça existe. Nous allons aussi prendre des mesures vis-à-vis de la Commission européenne. Et là-dessus, je suis accompagnée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui, lui-même, a prôné une harmonisation des prix du tabac en Europe de façon à éviter les trafics. Donc voilà, la France va être en première ligne et nous allons porter ce sujet à la Commission européenne.
Est-ce que les médicaments qui nicotiniques, hein, ce qui permet de compenser la cigarette, est-ce que ça, la Sécurité sociale va à un moment donné davantage donner d'argent à ceux qui veulent arrêter de fumer? Aujourd'hui, c'est 150 euros par exemple pour un forfait.
Malheureusement, aujourd'hui, ces 150 euros par fumeur ne sont pas utilisés. Donc j'aimerais déjà que tous les fumeurs qui souhaitent s'arrêter utilisent ces fonds qui existent au sein de la Sécurité sociale. Ensuite, si on s'aperçoit pour X raisons qu'on a besoin d'augmenter la durée, nous le ferons, parce que il ne faut absolument pas que des fumeurs soient freinés dans leur volonté d'arrêt pour des raisons financières. C'est
donc
évident.
Ça, vous dites peut-être qu'on augmentera les substituts nicotiniques, l'aide aux substituts nicotiniques.
Aujourd'hui, mon problème, c'est le non-recours. Donc, les substituts nicotiniques, ils sont pris en charge jusqu'à 150 euros par la Sécurité sociale et personne ne l'utilise ou très peu.
Vraiment, d'un oui ou d'un non, est-ce que vous souhaitez que l'extension de l'interdiction aille jusque les trottoirs, les parcs ou pas en France aujourd'hui? C'est le cas dans des pays, dans certains États des États-Unis.
Oui. Nous verrons si nous n'arrivons pas avec l'augmentation du prix du tabac à faire une vraie inflexion, nous pourrons réguler autrement. Moi, je souhaiterais déjà qu'il n'y ait plus de fumeurs au sein des hôpitaux. Malheureusement, je vois encore trop souvent, alors que l'hôpital est un lieu sans tabac en théorie, des personnels hospitaliers fumer dans les cours. Je souhaite que devant les écoles, dans les jardins publics, c'est déjà la loi. Dans les zones avec enfants, c'est déjà la loi.
Mais globalement, pour
globalement, soyons attentifs au moins à faire respecter la loi.
Alors, on va donc parler maintenant du budget. Vous dites que vous voulez, Agnès Buzyn, tailler 30% dans les dépenses de l'assurance maladie. C'est un budget d'austérité que vous proposez aux Français pour la Sécurité sociale aujourd'hui.
Je n'ai pas du tout dit ça.
Vous dites 30% de dépenses non pertinentes.
Je suis en train de repenser à une réforme cohérente de notre système de santé pour que, justement, nous n'ayons pas à avoir à faire des coupes dans les dépenses de l'assurance maladie et que tous les soins importants, utiles, soient remboursés. Donc, justement, parce que je sais qu'il y a aujourd'hui énormément de dépenses inutiles. Ces 30%-là dont on parlait.
C'est quoi ces dépenses inutiles concrètement?
Eh bien, par exemple, dans un parcours de soins pour une maladie, par exemple, vous allez avoir des actes totalement inutiles qui vont être prescrits, alors qu'il y a des référentiels de traitement, des normes de prise en charge qui montrent très bien qu'il n'est pas nécessaire de faire un scanner tous les mois. Voilà, des dépenses totalement inutiles dans certaines prises en charge et que par une meilleure formation des médecins, de meilleurs contrôles, nous pourrions aujourd'hui réduire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pertinence des soins. On sait aujourd'hui qu'environ 30% des dépenses d'assurance maladie ne sont pas utiles aux malades.
Mais ça veut dire qu'on pourrait économiser 30% si on allait au bout de votre logique.
On pourrait à terme, mais ça va prendre évidemment des années, mais on a cette marge de 30% d'actes inutiles. C'est des gens qui sont opérés alors qu'ils n'ont pas besoin d'être opérés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre système valorise le fait qu'on fasse des actes et ne valorise pas la qualité des prises en charge. Donc je souhaite changer d'angle. Je souhaite qu'on travaille sur la qualité des prises en charge, la pertinence des actes et qu'on arrête de courir après l'activité.
Mais alors notamment dans les économies que vous voulez faire, c'est la fermeture de lits dans les hôpitaux. Combien, Agnès Buzyn, allez-vous fermer de lits dans les hôpitaux ? Il y en a eu 16 000 lits fermés entre 2015 et 2017.
Oui, nous le savons, il y a encore trop de prises en charge hospitalières qui sont inutiles. Les patients pourraient être pris beaucoup plus en charge en ambulatoire, avec moins de temps à l'hôpital, voire pas du tout à l'hôpital.
Mais on peut encore, parce que ça fait quand même des années qu'on développe l'ambulatoire, on peut encore aller plus loin sur l'ambulatoire.
On peut aller beaucoup plus loin sur la chirurgie ambulatoire, on peut aller beaucoup plus loin sur la médecine. On sait que, par exemple...
Quel type d'acte,
par exemple ?
Eh bien, on sait aujourd'hui que sur des prothèses de hanche, on a moyen de faire sortir les gens beaucoup plus vite. Donc, c'est une réduction des durées d'hospitalisation. Et donc, ça permettrait de fermer certains lits. On sait que dans certaines disciplines, les personnes restent dans leur lit en attendant simplement d'avoir accès à une IRM ou un scanner. Donc, dans ma pratique médicale, j'ai vu trop souvent des gens rester dans des lits hospitalisés une journée, deux journées, trois journées entières à 1 500 € la journée pour rien parce qu'on attendait un scanner en fin de semaine. Voilà, ce sont des dépenses totalement inutiles. Et là, les Français, je crois, ne se rendent pas compte de nos
combien
marges.
Combien de lits, Agnès Buzyn, il faut vraiment. Vous savez, c'est important de donner des chiffres quand même, parce que
non,
ça permet aussi aux Français de comprendre.
Non, vous n'allez pas me cornériser dans des chiffres. Moi, je veux une révolution douce de nos pratiques. Donc, je ne veux pas affirmer qu'on aura fermé X lits. Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je vous dis, c'est qu'on a d'énormes marges de progrès dans la qualité des prises en charge des gens. On pourrait, on le sait très bien, beaucoup moins recourir aux urgences hospitalières si on avait une meilleure organisation des soins. Donc tout ça, c'est une révolution douce et je veux la mener avec les patients et avec les professionnels.
La Cour des comptes dit qu'il y a beaucoup trop de centres de chirurgie qui ont une faible activité. Il faut fermer des centres de chirurgie ? Ce qui est toujours un sujet délicat localement.
Alors, vous savez, parfois les sujets sont complexes. Il se trouve que dans certaines pratiques, certains actes chirurgicaux, quand on n'en fait pas beaucoup, on les fait mal. Mmh. Et donc, pour certains actes, on sait très bien, et j'ai en tête par exemple la chirurgie du cancer de l'ovaire que je connais très bien, on sait très bien que si les équipes n'en font pas énormément, elles le font très mal. Et donc ça doit être soumis à un seuil d'activité. À l'inverse, il y a d'autres actes, peut-être plus simples, où le seuil intervient peu dans la qualité. Donc, il faut regarder un par un les actes, le type de discipline, avant
Mais
de mettre les seuils partout.
Il faudra fermer des centres de chirurgie.
Je ne sais pas.
Quand vous dites, Madame la Ministre...
Qui veut dire peut-être, Agnès Buzyn.
Qui veut dire peut-être.
Quand vous dites qu'il y aura des objectifs de qualité, des bonus pour les hôpitaux, concrètement, comment ça fonctionne ? Comment on évalue qu'un hôpital est pertinent dans sa manière de fonctionner ?
Alors, aujourd'hui, il existe déjà une valorisation financière des hôpitaux sur des critères de qualité. Ce sont des critères assez grossiers. C'est basé sur des indicateurs, sur le lavage des mains des professionnels. Ce ne sont pas des indicateurs de qualité de la prestation, de l'acte qu'on donne aux malades, de la qualité de la prise en charge. Je veux qu'on s'intéresse à la qualité des prises en charge. Est-ce qu'à l'arrivée, les gens ont été opérés pour des bonnes raisons, des bonnes indications ? Est-ce qu'ils ont été bien opérés ? Est-ce qu'ils ont été bien suivis ? Et avec ces indicateurs-là, je veux rémunérer ceux qui font bien et arrêter de rémunérer uniquement ceux qui font beaucoup.
Mais ce sera assez intuitif, parce que vous ne craignez pas de mettre en place une usine à gaz, parce qu'on le sait, à chaque fois qu'on veut évaluer une qualité, c'est compliqué d'avoir des critères objectifs.
Exactement. Est-ce qu'il faut s'empêcher d'essayer d'être intelligent ?
Qui fera l'évaluation ?
Vous avez raison. Adrien Jean, Alexis Brézé.
Une question sur une mesure de recette là, qui retient l'attention, c'est celle de l'augmentation du forfait hospitalier qui va passer
de
2 €, donc de 18 à 20 euros. Et alors vous dites, mais les mutuelles ne sont pas obligées de le répercuter, mais qu'est-ce qui pourrait les empêcher de le faire ?
Agnès Buzyn.
Bon, les mutuelles, on le sait, ont quelques marges. On sait par exemple qu'elles remboursent certains actes. Elles peuvent décider peut-être d'en rembourser, alors des actes qu'elles décident de rembourser, qui sont en dehors des actes remboursés par l'assurance maladie, mais elles décident de faire un certain nombre de prestations particulières. Peut-être qu'elles peuvent réduire de 0,5% le coût de remboursement de ces prestations pour ne pas répertorier.
Mais là, vous vous en remettez à leur générosité ou vous dites non, vous pouvez pas.
Alors, pourquoi je suis prudente ? Parce que nous commençons à ouvrir un débat qui me semble très important et beaucoup plus important que le forfait hospitalier, pardonnez-moi, parce que si on répertorie ce que représente le coût du forfait hospitalier, c'est 0,5% du prix des mutuelles pour les gens. Donc ça reste quand même une augmentation très légère. Mais moi, j'ai une vraie grosse négociation
Les lunettes, les prothèses.
Les lunettes, les prothèses auditives. Et ça
va faire augmenter, ça risque de faire augmenter les cotisations des complémentaires.
Oui, ça risque de faire augmenter, sauf si on travaille également sur toute la filière de production de ces produits, sauf si on travaille aussi à une définition de ce qui est vraiment indispensable et puis qu'on laisse le superflu à la charge
des personnes.
Mais
quels moyens vous avez d'éviter cette augmentation des tarifs des mutuelles ?
Je commence les négociations. Je commence au mois de novembre. Nous avons déjà commencé avec les dentistes dans le cadre de la convention qui doit être renouvelée avec l'assurance maladie à travailler sur le reste à charge zéro sur les prothèses dentaires. Et on sait que c'est un énorme sujet pour les Français. Nous ouvrons les négociations début novembre avec les professionnels des prothèses auditives et des lunettes. Et donc, avec toutes les filières et avec les mutuelles.
Et vous voulez aboutir d'ici à un an, c'est ça votre objectif ?
Non, j'ai dit que j'espère que d'ici un an, nous aurons déjà avancé. Je ne veux... C'est toujours pareil, si on se fixe des dates, on est sûr de ne pas y arriver, alors que si on laisse à l'intelligence collective le soin d'avancer en concertation, on a un peu plus de chances d'aboutir. Donc, je suis prudente sur les dates. Si je peux avoir quelques mesures phares pour les Français dans le PLFSS 2018, c'est-à-dire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2018, qui permet un reste à charge zéro sur un certain nombre de pratiques, j'aurais déjà bien avancé.
Mais vous savez que la hausse du forfait hospitalier va impacter les Français. Et il y a autre chose qui va impacter notamment les classes moyennes, c'est la diminution de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE. Elle baissera de 15 euros par mois. Et vous dites... Seulement 15 euros par mois, mais c'est énorme, non ? 15 euros, c'est ce que vous dites ce matin.
Je vais vous reprendre sur deux choses, ouais. Monsieur Sportouche. D'abord, le forfait hospitalier, il impacte les mutuelles, il n'impacte pas les Français. 95% des Français aujourd'hui ont une mutuelle. Et il n'impacte pas les personnes qui sont notamment les femmes enceintes, il n'impacte pas les personnes hospitalisées pour un attentat, par exemple. Donc, il est déjà pris en charge pour un certain nombre de personnes. Donc, 95% des Français ont une mutuelle et n'ont pas à payer de leur poche le forfait hospitalier.
Et la PAJE ?
Alors, la PAJE, je n'ai jamais dit que ça n'était rien. Je me permettrai certainement pas moi de dire que 15 euros, ce n'est rien quand on a une famille à nourrir. Certainement pas.
Vous dites seulement 15 euros par mois ?
Non, pas du tout. Je dis que cet alignement d'une prestation, il faut que les Français comprennent. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'aligner une prestation qu'on donnait avant l'âge de 3 ans à une prestation qu'on donne après l'âge de 3 ans. C'est normalement les mêmes, ça devrait être les mêmes plafonds de revenus et ça devrait être les mêmes sommes. Aujourd'hui, avant 3 ans et après 3 ans, vous recevez une allocation avec des plafonds de revenus différents et une somme qui est différente de 15 euros. Donc on aligne, c'est vrai, vous avez raison, on aligne vers le bas, c'est-à-dire 15 euros de moins avant 3 ans et après 3 ans. Pourquoi ? Pour faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, on
les familles monoparentales ?
Alors, pas seulement. On revalorise pour les familles monoparentales le complément de garde d'enfants on le revalorise de 30%. Ça va permettre aux femmes seules qui élèvent seules leurs enfants de pouvoir les faire garder pour retourner à l'emploi. On revalorise le complément familial majoré. C'est pour les familles qui ont plus de 3 enfants et qui sont sous complément de ressources plus bas, certes, mais qui, elles, vont toucher 17 euros en plus. On revalorise la prime de naissance. L'allocation de soutien familial.
En même temps, vous augmentez la CSG de 1,7%, mais juste pour rester dans les familles, est-ce que vous êtes, vous, Agnès Buzyn, favorable à la fin de l'universalité des allocations familiales ? Le MoDem, qui est votre allié dans la majorité, est contre. Il dit que ce serait une remise en cause de la politique familiale. Agnès Buzyn.
Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'objectif. Ce n'est pas les moyens. Et aujourd'hui, les Français et nous, globalement, nous nous battons sans arrêt sur des questions de principe. Et ça fracture la société sans arrêt. Mettons-nous d'abord d'accord sur quel objectif on veut pour notre politique familiale. Aujourd'hui, nous avons un souci majeur, c'est la baisse de la natalité pour la première année. Elle est descendue en dessous de 2 enfants par femme. C'est dramatique pour notre pays et c'est la première fois depuis la guerre que nous avons une natalité si faible. Donc nous ne renouvelons pas nos générations. Donc ça, c'est un enjeu majeur. qu'est-ce qui va servir cette politique familiale ? Nous avons un deuxième sujet. Nous avons 36% des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec des femmes seules qui ne peuvent pas travailler, qui ont parfois plusieurs enfants, et ces enfants vivent dans une très grande pauvreté, et vous savez qu'ils n'ont aucune perspective.
Donc cela plaît pour la fin de l'universalité, si on vous entend bien, c'est-à-dire ne plus donner à ceux qui sont les plus aisés.
Pas de tabou dans la discussion. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, nous nous mettrons d'accord sur la fin de l'universalité. Je n'en sais rien. Je ne veux pas donner
la question. C'est vous qui la prenez, la décision. Oui.
Non, moi, la décision que j'ai prise, c'est de réouvrir le débat avec les associations familiales, notamment avec l'UNAF, avec le Haut Conseil pour l'enfance, la famille et l'âge.
Mais vous avez une conviction sur ce sujet, Agnès Buzyn. Quelle est-elle ?
Moi, j'entends beaucoup de familles.
Vous êtes une femme de conviction, tout le monde le dit. Alors, quelle est votre conviction sur ce sujet ?
Eh bien, je pense que quand on gagne 8000 euros par mois, ce qui est le cas de certaines familles aisées aujourd'hui, et qu'on reçoit 42 euros par mois pour le premier enfant et 60 pour le deuxième, c'est-à-dire 100 euros par mois, ça ne joue pas tellement dans l'envie de faire des enfants. Je ne crois pas qu'on fasse des enfants pour ça. Donc, ça ne sert pas la politique de natalité que je souhaite mettre en place. Et ça ne joue pas sur le seuil de pauvreté des enfants. Donc, c'est une question qu'on a le droit de se poser.
On comprend quand même que vous penchez dans ce sens-là de la suppression de l'universalité. Vous n'avez pas tranché, mais...
Non, et puis ce n'est pas une conviction. Vous savez, de temps en temps, il faut se donner le temps d'écouter les avis des uns et des autres et de se forger une conviction. On peut ne pas avoir d'emblée une conviction sur tous les sujets. Ce que je dis, ce n'est pas de tabou.
Juste une question.
Alexis Brézé.
Est-ce que finalement, quand on parle de la diminution de la PAJE, de l'éventuelle suppression de l'universalité des allocations familiales, est-ce que ce n'est pas un peu toujours sur le même type de population que ça tombe, si j'ose dire, c'est-à-dire les classes moyennes et les moyennes supérieures qui finalement sont pas dans les plus riches qui bénéficient des mesures sur l'ISF et pas dans les plus pauvres dont vous dites à juste titre qu'il faut les aider. Est-ce qu'il y a pas un problème politique global ?
Agnès Buzyn.
Déjà, moi, je suis très contente que vous disiez et que vous disiez devant tous les auditeurs que nous faisons beaucoup pour les plus pauvres. Parce qu'effectivement, nous faisons beaucoup. Nous faisons beaucoup pour les personnes en difficulté et ça passe en général par pertes et profits. Donc je voudrais quand même rappeler ce que nous faisons aujourd'hui en termes de formation, d'apprentissage pour les jeunes, en termes de logement, avec le logement d'abord et toute la politique qui est menée.
Enfin, la réforme de l'ISF, vous savez par exemple qu'elle est très mal perçue, Agnès Buzyn. Par exemple, François Bayrou disait, parce que vous dites que vous faites une politique en faveur des plus démunis, ou en tous les cas de ceux qui en ont le plus besoin, mais on entend François Bayrou dire ce matin, sur l'ISF, c'est pas une bonne réforme, c'est pas celle que j'aurais faite, parce que ça va ponctionner, ou en tous les cas, ça ne va pas aller dans le sens d'une justice sociale.
Alors aujourd'hui, notre politique, c'est de relancer l'emploi et de faire en sorte que nos entreprises soient capables de capitaliser un peu plus. Ce n'est pas à des économistes comme vous que je vais l'apprendre. Donc c'est une politique qui a certes un besoin de relancer l'économie pour faire diminuer le chômage. C'est quand même notre première priorité, c'est la diminution du chômage de masse. Et deuxièmement, nous faisons énormément pour les personnes les plus en difficulté, je le répète. Ce que nous faisons à l'école sur le dédoublement des classes.
Il n'y a pas besoin de plus de social, vous dites. On fait déjà assez de social aujourd'hui.
Il n'y aura jamais... Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'investir massivement, que ce soit moi dans mon projet de loi de financement de la sécurité sociale, où je fais des choix, vraiment des choix. Clair. Je ne fais pas du rabot, je fais des choix clairs en faveur des personnes les plus en difficulté. Je lance un grand plan sur la pauvreté des enfants et des jeunes, et nous aurons encore des mesures pour lutter contre la pauvreté des jeunes. Il y a toute la politique de l'éducation, toute la politique de la formation. Laissez-nous le temps d'agir.
D'accord. Vous avez un quinquennat, je reviens juste à ma question sur les classes moyennes supérieures. Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème politique, qu'il faudra un jour baisser par exemple l'impôt sur le revenu?
Quand notre société se portera bien, j'espère que nous pourrons baisser l'impôt des Français. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Alors, juste une question, on va avoir Marie-Pierre Haddad qui vient de nous rejoindre, mais juste une question quand même sur le tiers payant. Vous avez décidé, Agnès Buzyn...
Sur l'impôt, nous avons quand même la taxe d'habitation. On le passe par pertes et profits. 80% des Français aujourd'hui vont gagner à ne plus payer la taxe d'habitation. C'est quand même un impôt en moins.
Oui, mais ceux dont on parlait à l'instant, ceux-là ne bénéficieront pas de la suppression de la taxe d'habitation.
Juste parce que ça peut favoriser aussi ceux qui sont les moins favorisés, c'est-à-dire la généralisation du tiers payant chez le médecin. Finalement, vous revenez en arrière puisque vous dites non, finalement, nous ne ferons pas ce que la loi Touraine avait prévu, c'est-à-dire une généralisation au 1er décembre. Seuls ceux qui sont, seule une partie de la population sera concernée, ce ne sera pas chez tous les médecins. Pourquoi ?
Alors, moi, je ne dis rien aujourd'hui. Encore, je dis simplement que je viens de recevoir...
On n'est pas prêt techniquement.
Non, mais je ne dis pas, c'est un rapport d'inspection générale de l'IGAS qui avait été demandé en juillet en urgence à la demande du ministère parce qu'on sentait qu'il y avait des difficultés techniques. Et ce rapport démontre que techniquement, le tiers payant généralisé n'est pas faisable au 1er décembre. Il n'est pas faisable. Donc, ça ne sert à rien de parler d'une obligation puisque ça n'est pas techniquement faisable. Donc, de facto,
c'est
l'obligation...
C'est un problème de logiciel, d'informatique. C'est quoi la
question? Oui, c'est un problème d'informatique. Nous ne savons pas aujourd'hui, sur la part des complémentaires, faire en sorte que le médecin soit remboursé.
Vous ne cédez pas aux pressions des médecins?
Non,
parce qu'ils sont très contre, faut dire la
vérité.
Alors
vous savez, c'est très simple. Je vais rendre le rapport public. Il sera public dès lundi. Tout le monde pourra se forger sa conviction. Et aujourd'hui, le rapport dit que le tiers payant généralisé au 1er décembre est irréaliste.
Et donc, on sera prêt pour quand alors?
Eh bien, on va travailler avec l'ensemble des professionnels. Et moi, je veux travailler avec l'ensemble des professionnels pour que le tiers payant soit généralisable. C'est l'engagement du président de la République.
Mais
parce que
j'ai fait.
Il sera généralisable.
Pas généralisé, ce qui n'est pas la même chose.
Sur les mots, là, Agnès Buzyn.
Non, je ne joue pas sur les mots. Ça veut dire quoi, généralisable? C'est que toutes les personnes qui en ont besoin puissent y accéder.
Oui, donc, alors déjà... Ça veut dire pas tout le monde.
Mais vous avez besoin, vous, du tiers payant?
Non, sûrement pas, mais...
Donc, qui a besoin du tiers payant aujourd'hui? Moi, je veux que les personnes qui ont besoin du tiers payant y accèdent. Alors, il y a déjà les personnes... les plus en difficulté, c'est-à-dire celles qui ont la CMU-C, l'accès aux complémentaires santé, qui sont vraiment les populations les plus défavorisées, elles ont déjà le tiers payant puisqu'elles sont prises en charge à 100% par les sécurités sociales. Donc ces personnes-là, les femmes enceintes, ont le tiers payant généralisé et toutes les personnes en ALD, c'est-à-dire qui ont une maladie chronique qui les emmène à aller chez le médecin régulièrement. Donc toutes les personnes qui ont vraiment tout le temps besoin d'un médecin et qui sont les plus pauvres dans notre société accèdent au tiers payant. Ensuite, la difficulté, c'est les complémentaires. Tous ceux qui ont une complémentaire santé aujourd'hui, nous ne savons pas faire le tiers payant sur la partie complémentaire. Donc ce qui est dans la loi, moi je regrette qu'on vote des lois sans se préoccuper de savoir si c'est faisable. On peut toujours dire que tout le monde doit aller sur sa
turne. Ça c'est Pierre Dangermain, votre prédécesseur Marisol Touraine, qui est allée trop vite en besogne.
C'est effectivement très bien d'affirmer politiquement qu'on veut lutter contre la difficulté d'accès aux soins, parce que moi aussi je veux lutter contre la difficulté d'accès aux soins.
Ah, vous entendez. Sur le tiers payant.
Alors... Quand on me donne un système qui, à la fin, n'est pas faisable, je trouve
Marisol Touraine l'entendra et vous répondra peut-être l'ancienne ministre de la Santé. Alors, Marie-Pierre Haddad, qui est ici et qui nous a rejoint sur ce plateau, pour vous relayer les premières réactions des auditeurs et téléspectateurs. Que disent-ils, Marie-Pierre? Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour, Madame la Ministre. Vous parliez des hôpitaux et de la prise en charge des patients. Les internautes ont beaucoup réagi sur ce sujet et ils n'ont pas compris votre projet. Agnès raconte que les médecins urgentistes passent un temps fou à trouver un lit pour leurs patients et ce n'est pas tenable. Et sur Facebook Live, Catherine vous demande quand allez-vous vraiment prendre conscience du burn-out du personnel médical et paramédical?
Agnès Buzyn.
Alors, vraiment, s'il y a une chose que je connais bien, c'est le burn-out des équipes médicales, notamment dans les hôpitaux. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas que j'avais encore ma consultation à l'hôpital public il y a 6 mois. Donc, j'y ai passé 25 ans de ma vie et je sais ce que c'est que de travailler dans l'hôpital public. Pourquoi on cherche des lits aujourd'hui? C'est pas parce qu'il n'y en a pas assez, c'est parce qu'on garde des malades inutilement pour faire du chiffre. C'est de ça dont je parle. Et je dis qu'il faut qu'on arrête d'obliger les hôpitaux à penser comme une entreprise qui doit faire du chiffre. Aujourd'hui, j'entends des directeurs d'hôpitaux me parler de part de marché. Mais la santé, ça n'est pas un marché. Je veux dire, il faut qu'on revienne au bon sens et au sens de notre métier. Notre métier de soignant, c'est de bien soigner. C'est pas d'avoir des lits en plus pour faire de l'activité. Et donc, c'est de ça dont je parle.
On va faire une pause et on va se retrouver. Une petite question sur le burn-out. Est-ce que vous êtes pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, Agnès Buzyn?
Alors, il se trouve que c'est un sujet que j'ai eu à traiter quand je présidais la Haute Autorité de Santé, puisque j'avais été saisie par la ministre pour faire un rapport sur le burn-out. Aujourd'hui, il s'avère que ça n'est pas une maladie. C'est un ensemble de symptômes. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui, de décider que c'est une maladie professionnelle.
Donc, ça ne le sera pas.
En tous les cas, la Haute Autorité de Santé, à l'époque, avait pris un avis défavorable.
Merci Agnès Buzyn. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de votre grand jury. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Agnès Buzyn, nous avons balayé pas mal de sujets en première partie d'émission. Il y en a un autre sensible, ce sont les déserts médicaux, là où il y a trop peu de médecins et il y a beaucoup de questions à ce sujet. Alexis Brézé vous pose la première.
Oui, vous essayez évidemment d'encourager les médecins à aller vers les zones où il n'y en a pas assez, mais vous dites que la coercition n'est pas efficace. Mais comment on fait si on n'a pas de moyens de pression sur les médecins ?
Agnès Buzyn.
En fait, on change d'angle. Depuis 30 ans, on dit qu'il y a des déserts médicaux, il faut imposer aux médecins d'aller s'installer dans des endroits où ils n'ont pas envie d'aller, et on sait que ça ne fonctionne pas, même avec des incitations. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'au lieu d'obliger des gens à s'installer, obligeons-les à aller travailler un jour, deux jours par semaine, dans des endroits où on a besoin de médecins. Et donc, je vais favoriser des exercices mixtes, c'est-à-dire, par exemple, un médecin hospitalier qui passe deux jours par semaine dans une maison de santé, donner du temps de spécialistes, par exemple, ou de généralistes, ou aller aider un médecin qui veut partir à la retraite, qui ralentit son rythme de travail, et aller deux jours par semaine dans ce cabinet.
Mais vous avez dit obligeons-les, pardon. Oui. Vous venez de dire obligeons-les à aller travailler deux jours. Comment vous faites ?
Aujourd'hui, on va... Par le plan qui a été présenté par M. le Premier ministre la semaine dernière, nous avons un tas de mesures incitatives, très incitatives. Vous êtes payé 25...
Obligation ou incitation ?
Non, incitation. Vous êtes payé par exemple 25% de plus par consultation quand vous allez dans une zone sous-dotée donner du temps médical. C'est pas rien, 25% de
l'honoraire
en plus. Et ça, c'est payé par la sécurité sociale.
Est-ce qu'il faut aller au-delà que c'est 25%?
Attendons déjà de voir si ça fonctionne, parce que je crée des postes d'assistants partagés entre les hôpitaux et les zones sous-dotées. On va aider à la coopération interprofessionnelle. On voit bien que dans certains endroits, il y a déjà des délégations de tâches qui se font avec des pharmaciens, avec des infirmières. Donc on va aider ces coopérations. Et toutes les mesures que j'ai prises sont pragmatiques. Elles reviennent vraiment du terrain. C'est tout ce qui m'a été remonté comme idée du terrain et qui était bloqué pour des raisons réglementaires.
Est-ce que le problème, ce n'est pas le manque global de médecins ? Et justement, est-ce qu'il ne faut pas pour cela augmenter le numerus clausus de médecins ? C'était d'ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Absolument. Donc, on a deux problèmes. On a la démographie médicale aujourd'hui qui est en baisse, et le fait que pour former un médecin aujourd'hui, il faut 12 ans. Donc, si on ouvre le numerus clausus aujourd'hui, les médecins sortiront de l'école en 2030.
Oui, mais raison
en
2030, de plus pour pas traîner.
Non, en 2030, il se trouve que la démographie médicale aura beaucoup réaugmenté, puisqu'on a ouvert le numerus clausus ces dernières années. Donc en fait, il y a une baisse jusqu'en 2025, et une réaugmentation en 2030, il y en aura plus que maintenant.
Donc vous ne toucherez pas au numerus clausus ?
Non, pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge collectivement pour ne pas faire les erreurs du passé, c'est-à-dire ne pas avoir été capable d'anticiper ce que sera la profession médicale. On doit se poser pour se dire, c'est quoi la profession médicale ? C'est quoi être soignant en 2030 ? Ça sera quoi les techniques que nous aurons à notre disposition ? Et c'est quoi notre besoin en médecin en 2030 ? Et oui, on peut toucher au numerus clausus une fois qu'on a réfléchi à ce que ce sera la profession de médecin de 2030 à 2050.
Puisqu'on parlait des études médicales, vous nous avez dit qu'il y avait des étudiants en médecine dans le public. Quelle est votre position vis-à-vis de cette question des prérequis ou de la sélection à l'entrée, notamment en faculté de médecine? Est-ce que pour sortir du tirage au sort, il faut, par exemple, dire il faut avoir fait S?
Il faut avoir fait terminal S, pas une classe littéraire. Agnès Buzyn.
Vous savez le drame de la médecine aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait le bac S avec une mention très bien ou bien, vos chances d'être reçus en première année sont proches de zéro. Donc, est-ce qu'on a raison de laisser encore des générations d'étudiants aller avec un bac sans mention ou un bac littéraire à un concours où ils vont perdre 2 ans de leur vie ? Donc, l'idée, c'est de les réorienter très vite. Ça n'est pas de fermer la porte, parce qu'il y a en plus des expérimentations qui permettent à des gens du secteur littéraire de retrouver la faculté de médecine, parce qu'il nous faut des humanistes aussi en médecine. Il ne faut pas que des techniciens, des maths.
Oui, mais il faut quand même une sélection.
La sélection, elle a qu'un seul objectif, c'est d'éviter que des enfants perdent 2 ans à 18 ans, alors qu'ils sont motivés, que c'est un moment où on a envie d'apprendre, et qu'en fait, ils se heurtent à des concours comme en médecine extrêmement difficiles. Non, je suis absolument contre le tirage au sort. Alors ça,
l'idée d'une sélection.
Il n'y a pas un parent qui puisse supporter le tirage au sort.
Oui, mais c'est une forme de sélection, là aussi, c'est ce que vous nous parlez.
Je pense que les parents, si on leur dit vous avez 99% de risque d'échouer en médecine parce que vous avez un bac L, ils le comprennent. Donc ce qu'il faut qu'on dise aux parents, c'est pas qu'il y a une sélection, c'est leur donner en face la probabilité de réussite de leur enfant. Et si on voit que la probabilité de réussite de l'enfant est proche de zéro, est-ce que ça a du sens de l'inscrire en médecine.
Alors, ça, c'est un changement de philosophie, c'est intéressant. La dernière question sur ce domaine-là des médecins, est-ce que vous pensez augmenter la consultation des médecins généralistes? Parce qu'on sait aussi qu'il y a un déficit en nombre de médecins généralistes. Est-ce qu'on pourrait passer à 30 euros d'ici la fin du quinquennat, par exemple?
Alors, ce qui a été fait, et que je trouve très bien dans la convention médicale, ce qui a été décidé et qui rentre en application maintenant, donc on va attendre. Moi aussi, je pense que les généralistes aujourd'hui en France ne sont pas assez rémunérés, et ils sont moins rémunérés que dans d'autres pays européens, mais c'est dans tous les pays pareil. Les généralistes sont généralement moins rémunérés que les spécialistes. Ce qui a été fait dans la convention médicale, c'est de rémunérer mieux des consultations complexes, des consultations longues, où ils ont besoin de prendre leur temps, et on reconnaît le fait qu'ils ont besoin parfois de temps, et donc pour éviter que la consultation ne dure que 2 minutes quand ils ont besoin de 30 minutes, ces consultations ont été largement revalorisées. Ça peut aller jusqu'à 60 euros la consultation.
C'est pas la règle. Est-ce qu'il faut quand même sur l'acte de base l'augmenter?
Non, je crois que c'est mieux. Moi, je préfère. De la même façon que je ne supporte pas les rabots, c'est-à-dire qu'on diminue les tarifs de tout le monde sous prétexte que ça coûte trop cher, je ne suis pas favorable à augmenter les tarifs de tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on cible. Il faut qu'on arrive à avoir une médecine qui paye bien ceux qui travaillent bien, ceux qui prennent du temps, et pas forcément qui paye bien plus tout le monde. Et ça n'est pas mon objectif.
Alors, on passe au sujet de société, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment la procréation médicalement assistée, puisque c'est un dossier que vous devriez défendre l'année prochaine, Adrien Gindre.
Et finalement, une question qui est très simple. On a beaucoup de mal à comprendre ce que le président veut sur ce dossier. Alors, je vais vous demander, est-ce qu'en 2018, oui ou non, la PMA sera ouverte à toutes les femmes et tous les couples de femmes en particulier?
Agnès Buzyn.
Encore les grands débats de société que notre pays adore.
Donc, le président... Mais vous avez beaucoup de mal à trancher, on
non,
a du mal
on
a à comprendre
aucun
la position.
Mal, aucun mal à trancher. On a dit qu'il y a une méthode, il y a des lois de bioéthique qui doivent, par la loi, être révisées tous les 4 ou 5 ans. Il se trouve que ça tombe l'année prochaine. Donc l'année prochaine, nous avons un vecteur législatif qui s'appelle les lois de bioéthique qui permet de mettre dans la loi éventuellement, des décisions autour de la procréation médicale assistée. La loi dit aussi que pour que ces lois soient promulguées, il faut avant un temps de concertation qui s'appelle les états généraux de la bioéthique où tout le monde discute de ces sujets.
Ce qui laisse le temps à la société. Les anti-PMA, en fait.
Non, je pense qu'il faut, et je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je le redis, je pense que tout le monde n'a pas une conviction profonde sur la PMA.
Vous en avez c'est vous ou la vôtre, pardon.
Tout le monde me demande la mienne. Eh bien, je suis en train de la construire, ma conviction. J'y suis plutôt favorable, à titre personnel, parce que je ne veux pas me défiler dans les questions, mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour savoir ce que vraiment je pensais sur ce sujet qui n'est pas... Il se trouve que ça n'est pas un sujet de mon quotidien. Personne autour de moi n'a affaire à ce sujet. Donc, j'écoute les arguments des uns, des autres. Je vois que ce droit ne retire rien à personne. Voilà. Je vois qu'il y a une immense différence entre la PMA et la GPA qui, elle, traite de la marchandisation du corps de la femme et que donc c'est bien un sujet totalement différent. Et donc, je me forge une conviction et j'entends les arguments des uns et des autres.
Mais on vous entend, on a l'impression 2018, que c'est une priorité pour vous. Parce que vous dites, bon, ça fait partie des sujets de société récurrents en France. Est-ce que vous vous dites, comme Gérard Collomb avant vous ici ou Bruno Le Maire, ce n'est pas une priorité pour 2018?
Ça, de facto, ça sera en 2018 discuté. Donc, ça sera une priorité de 2018, puisque les discussions dans les états généraux de bioéthique vont avoir lieu dans tous les territoires.
Mais discuté pas... et voté.
Alors ça, si en plus je suis capable de dire le vote du Parlement...
Vous avez une majorité, a priori.
Vous permettez quand même que les députés aient leur liberté de choix. Donc l'exécutif, évidemment, probablement, écoutera l'avis du Conseil national d'éthique qui s'est dit favorable, écoutera l'avis qui émergera des états généraux de la bioéthique, et si cet avis est favorable, évidemment, l'exécutif donc, proposera
le
un projet
pari,
de loi.
Le pari, finalement,
et
c'est
puis,
d'arriver à un consensus. Mais oui, s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a moins... Il faut trancher, oui ou non.
Certainement un débat apaisé. Prenons le temps de discuter. Prenons le temps de nous écouter. Franchement,
enfin, c'est ce qui a été fait au moment du mariage pour tous et vous avez vu comment ça s'est passé finalement.
Non, ça a été, justement, ça a été porté comme un défi quelque part, avec des convictions, des gens qui avaient une conviction profonde et c'était très bien. Et je dirais que sur le mariage pour tous, c'est probablement plus facile. Donc les convictions étaient très fortes. ça ne rentrait pas dans les débats de la loi de bioéthique, donc il n'y avait pas de raison que ce soit discuté de cette façon-là. Là, nous avons un vecteur magnifique qui s'appelle les états généraux de la bioéthique. Laissons le temps aux Français de s'approprier la complexité d'un sujet.
Mais la GPA, vous dites jamais, parce qu'il y a aussi des revendications de couples homosexuels.
Jamais.
Hommes.
Pour moi, jamais.
Moi, vous ne comprenez pas leur désir d'enfant, par exemple.
Si, je comprends totalement le désir d'enfant. Mais alors là, pour le coup, pardonnez-moi de parler en tant que femme. Moi, je sais ce que c'est que porter un enfant pendant 9 mois dans son ventre. Et je pense que de le donner après... voilà, indépendamment du fait qu'on paye, parce qu'en plus ces femmes sont payées aujourd'hui, je pense que à titre individuel, c'est quelque chose que je n'imaginerais pas pouvoir faire.
Alors juste une petite question très courte sur un autre sujet société avant d'aborder la question des vaccins. Autre sujet important que vous portez, c'est sur l'euthanasie, la fin de vie. Euthanasie, qui est un mot tabou, personne n'ose vraiment le prononcer. Et l'écrivaine Anne Berthe vient de décéder. Elle est partie en Belgique pour cela. En 2015, vous disiez à Agnès Buzyn que vous étiez favorable à un espace de liberté à la Belge. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui sur cette conviction-là ?
Alors d'abord, ça, c'est quelque chose qui tourne sur les réseaux sociaux. En fait, si vous reprenez exactement mes propos, c'était des propos que j'ai tenus dans un cadre tout à fait ouvert, public, sur des questions de fin de vie. À l'époque où nous n'avions pas la loi Claeys-Leonetti. Donc les propos que j'ai tenus, c'était que nous manquions aujourd'hui d'outils pour accompagner la fin de vie des gens. Et il n'y avait pas de loi. C'est-à-dire que nous n'avions pas la possibilité, quand des gens étaient atteints d'un cancer, par exemple, au stade terminal, de les accompagner et d'apaiser leur souffrance. Il n'y avait pas... Un médecin n'avait pas le droit de le faire.
Il y a aussi la question de la sédation.
Aujourd'hui, la sédation profonde et prolongée, c'est la loi Claeys-Leonetti, permet pour des gens qui sont condamnés d'abréger, de diminuer leur souffrance et éventuellement d'abréger l'agonie.
Donc vous n'irez pas plus loin,
alors,
Agnès
Non,
Buzyn.
Mais je pense que cette loi permet beaucoup de choses. Et ma première
mais
question...
Mais pas suffisamment visiblement pour la famille, par exemple, de Anne Berthe, sa fille, à RTL, a dit cette semaine, c'est terrible, ma mère a dû s'exiler pour mourir.
Mais en fait, il faut qu'on regarde exactement comment la loi est interprétée sur le terrain. C'est une loi qui date d'il y a un an, les décrets d'application datent d'il y a un an. J'aimerais savoir comment elle est appliquée sur le terrain et notamment sur le sujet très particulier des maladies neurodégénératives. Parce que c'est vraiment quelques dizaines de personnes par an.
Là, vous pourriez évoluer sur ces maladies-là.
Mais il faut qu'on regarde si elle est applicable pour certaines
mais votre
situations
particulières. Là encore, c'est un peu la même question que tout à l'heure. Votre sentiment instinctif ou...
Instinctif, c'est que je pense que tel que c'est appliqué en Belgique, ça pose vraiment la question du curseur. À partir de quand on décide effectivement qu'une personne est suffisamment malade pour dire qu'on abrège sa vie à un moment X? Et je trouve que c'est très difficile. C'est quoi une souffrance très profonde? Est-ce que des gens qui font des dépressions graves et 10 tentatives de suicide, il faut abréger cette souffrance atroce d'une dépression grave? Moi, je me pose la question du curseur. Je préférerais qu'on travaille sur la base de la loi Claeys-Leonetti avant de relégiférer sur un sujet éminemment compliqué.
Vous avez entendu Agnès Buzyn sur ce sujet. Sur les vaccins maintenant, c'est une politique que vous menez tambour battant, si je puis dire, puisque vous voulez maintenant qu'il y ait 11 vaccins obligatoires à partir de 2018. Et ça pose des questions, Adrien Gindre.
On n'est pas encore sur un débat apaisé, là. Au sein même de la majorité, il y a des élus qui demandent un moratoire sur cette question. Peut-être aussi parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi 11, pourquoi ces 11-là, pourquoi ce timing-là. Concrètement, cette mesure, elle va permettre d'éviter combien de malades en France chaque année? Elle va permettre d'éviter quelles dépenses? Quelle est l'idée que vous avez derrière ce passage à 11 vaccins obligatoires?
Agnès Buzyn.
Alors, aujourd'hui, nous avons dans notre pays un scandale sanitaire. Il se trouve que personne ne le voit, mais un scandale sanitaire. Nous avons des enfants qui meurent de maladies évitables par un vaccin. Nous avons des enfants qui meurent de rougeole, nous avons 50 morts de méningite par an, nous avons des milliers d'enfants, enfin de jeunes en tous les cas, ce ne sont pas des enfants mais des jeunes, qui s'infectent de l'hépatite B, qui font des cirrhoses et des cancers. Et ça s'est totalement passé sous silence, alors que d'autres continents, je pense au continent sud-américain, a réussi à totalement éradiquer la rougeole du continent sud-américain. Et nous, en France, on laisse des enfants mourir de rougeole ou avoir des handicaps très sévères. Je vois ma collègue Sophie Cluzel qui est là, qui s'occupe du handicap. Ces maladies infantiles, la méningite, la rougeole, ça donne des maladies de la tête, des infections de la tête, avec des handicaps très sévères.
Mais votre députée Blandine Brocker qui demande ce moratoire, est-ce qu'elle a tort? Elle ne comprend pas les enjeux?
Alors, d'abord, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on voit que la vaccination ne progresse pas dans notre pays, qu'on n'arrive pas à atteindre le taux de couverture de l'enjeu.
Pourquoi cette réticence? Pourquoi il y a des gens qui sont contre?
Avant de vous répondre, je voudrais simplement rassurer les Français. Aujourd'hui, il y a déjà 8 enfants sur 10 qui font ces 11 vaccins, qui sont les 11 vaccins du calendrier vaccinal. Donc déjà, 8 enfants sur 10 en France les font. Mon objectif, c'était de passer à 9 enfants sur 10 pour éviter les épidémies. Ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour tous les pays du monde. Donc, ce n'est pas une lubie d'Agnès Buzyn. J'essaie simplement de répondre à une recommandation forte de l'Organisation mondiale de la santé parce que notre pays n'est pas au rendez-vous. Donc, un, je m'insurge contre des morts évitables qui touchent des enfants. Et deux, je réponds à un enjeu de santé publique mondiale.
Madame la ministre, si c'est si important, faut sanctionner les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants.
Non, la sanction ne sert à rien. Je suis contre la sanction. Je veux une prise de conscience. C'est pareil que le tabac. Je veux une prise de conscience collective que nous ne sommes pas au rendez-vous d'un sujet de santé majeur. Donc je dis aux parents, c'est obligatoire. Vous ne rentrerez pas, vos enfants ne rentreront pas à l'école ou en crèche s'ils ne sont pas vaccinés.
Ah, donc il y a quand même une sanction de facto.
Il me semble que c'est suffisant comme sanction. C'est une sanction suffisante. Il n'y a pas besoin de rajouter une sanction pénale ou financière.
Mais ils ne rentreront pas à l'école
Je tiens aussi à rajouter que d'autres pays viennent de rendre obligatoire 10 vaccins, c'est notamment l'Italie, que d'autres pays ont des sanctions pénales ou financières, et qu'enfin, dans des pays où les vaccins ne sont soi-disant pas obligatoires, comme aux États-Unis, soi-disant pas obligatoires, en fait, les enfants n'ont pas le droit de rentrer à l'école. Donc, ce qui est recommandé dans certains pays, en fait, correspond à notre définition d'obligatoire.
Donc, c'est ce que vous allez faire. S'ils ne sont pas vaccinés, ils n'accéderont pas aux institutions publiques scolaires. Juste sur la vaccination, toujours, est-ce que pour les professionnels publics et privés, la précision est importante. La précision est importante, Agnès Buzyn.
Parce qu'il ne faut pas qu'ils exposent les autres enfants, notamment des enfants malades qui ne peuvent pas se vacciner, des enfants qui ont été traités par un cancer.
C'est vraiment obligatoire.
Il ne faut pas qu'ils les exposent à des virus.
Pour les professionnels de santé, est-ce que ce sera obligatoire ou pas ?
Alors, là, on parle des vaccins de la petite enfance.
Oui, mais alors, pour les professionnels, est-ce que la vaccination globale ?
Pour les professionnels. Pourquoi ce n'est pas obligatoire pour les professionnels de santé aujourd'hui ? C'est qu'aujourd'hui, le vaccin antigrippal ne sauve pas la vie des professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est plus une question de déontologie. Est-ce que quand on est un professionnel de santé, on peut se permettre de passer la grippe à quelqu'un ?
À des personnes âgées.
Voilà. Donc c'est un enjeu pour moi de déontologie. Donc j'ai demandé au Conseil de l'Ordre de faire des recommandations déontologiques fortes sur le sujet, parce que effectivement, je pense que les professionnels de santé ne sont pas au rendez-vous de la vaccination.
Mais est-ce que vous les obligerez à le faire ?
Alors c'était avant une obligation. Et ça a été levé parce qu'il avait été reconnu qu'on ne peut pas obliger des gens à se vacciner pour un vaccin qui ne leur apporte pas de bénéfice personnel. C'est très différent pour les vaccins de la petite enfance. Parce que le bénéfice, il n'est pas seulement collectif, il est aussi personnel.
Donc est-ce que vous retournez en arrière ou on ne peut pas revenir à l'obligation ?
Non, je verrai comment évolue le taux de vaccination des soignants. Aujourd'hui, je leur ai demandé de faire un effort. Et je trouve que quand je dis fermement quelque chose aujourd'hui, je trouve que les professionnels me suivent et je les remercie.
Adrien Gindre.
Un petit mot sur la grippe toujours. Vaccination possible en pharmacie cette saison. Vous avez déjà un premier bilan. Est-ce que ça a porté ses fruits ?
Oui, c'est un élan extraordinaire. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 pharmacies qui sont dans l'expérimentation du vaccin antigrippe en pharmacie pour gagner du temps, pour que ce soit plus facile pour les gens. Et à la date d'aujourd'hui, on a déjà sur ces 2000 pharmacies 27 000 personnes âgées de plus de 65 ans qui ont été vaccinées en pharmacie.
Ça veut dire un plus grand nombre que ce qu'on aurait eu en temps normal ou on ne peut pas l'évaluer ?
Alors, on verra à l'arrivée si le taux de vaccination dans les régions où se passe l'expérimentation est meilleur que l'année précédente.
Alors, Marie-Pierre Haddad nous a rejoint à nouveau sur ce plateau pour les réactions des auditeurs et téléspectateurs dans cette seconde partie d'émission. Que nous disent-ils, Marie-Pierre ?
Alors, il y a trois sujets qui sont systématiquement abordés par les internautes quand on évoque votre nom. On l'a constaté en préparant l'émission et aussi en direct. C'est sur le Lévothyrox, le Cytotec et sur la grippe. Alors, j'ai sélectionné trois questions des internautes.
Sur le Lévothyrox, rappelons qu'il y a eu un changement de formule.
Exactement.
Et beaucoup de patients qui se sont plaints des effets secondaires.
Et donc, Jean-Claude écrit, il dit comment ne pas prendre la peine d'informer les patients des conséquences de la nouvelle formule. On laisse tout simplement les gens seuls face à leurs problèmes. Ce n'est pas digne. Est-ce que vous craignez des procès en cascade ?
Alors,
pour l'État.
Non, enfin, on n'a pas informé. C'est d'autant plus facile pour moi de le dire parce que tout s'est passé avant l'arrivée du gouvernement au pouvoir. Ce sont des décisions qui ont été prises en 2015 et une nouvelle formule qui a été mise sur le marché en avril 2017.
Donc ça ne me concerne pas.
Alors, demandez par l'autorité de santé parce que l'ancienne formule était instable. Donc, on a demandé au laboratoire de rendre une formule plus stable. Il se trouve qu'elle est mal tolérée et que les personnes n'ont pas été informées au moment de la commercialisation de la nouvelle formule que c'était nouveau. Donc elles ont eu des symptômes, elles ont pris peur et je l'entends. Et donc je lance une mission sur l'information des malades de façon à savoir comment nous changeons notre réglementation pour mieux informer les personnes. Mais je dis oui, elles n'ont pas été bien informées, je le confirme, et c'est d'autant plus facile que je n'étais pas au pouvoir.
Juste sur les levothyrox, avant de reprendre une nouvelle question, certains médecins, dans les certificats, l'ordre des médecins leur a demandé de ne pas mentionner qu'il y a un lien entre la nouvelle formule et ce qu'ils subissent. Est-ce que vous n'êtes pas choqué par cette instruction qui est donnée par l'ordre des médecins ?
Écoutez, moi j'ai donné une instruction très claire. Moi j'ai envoyé un courrier à tous les médecins en expliquant quels symptômes pouvaient être ressentis, quelles étaient les formules à la disposition des malades et des médecins pour leur prescription, quels étaient le nombre de boîtes accessibles dans la période intermédiaire où on essaye de diversifier l'offre.
Mais ça ne vous choque pas cette instruction, Agnès Buzyn ?
Je suis troublée, mais franchement, l'ordre prend ses responsabilités. Je ne suis pas la tutelle de l'ordre des médecins.
Vous êtes pour le moins troublé,
peut-être
rectifieront-ils le tir. Une autre question, Marie-Pierre Adam.
Cette fois-ci, c'est sur le Cytotec. Donc, je rappelle pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est un médicament contre les ulcères de l'estomac qui a été utilisé pour déclencher les accouchements avec des effets très dangereux pour la mère et l'enfant. Et Virginie, elle est en colère. Elle dit on annonce son retrait en octobre, mais il ne sera retiré du marché qu'au mois de mars 2018. Pourquoi est-ce qu'on attend encore ?
Alors, de ce que j'ai compris du dossier, parce que ce dossier est sorti cette semaine. Et donc j'ai appris l'affaire Cytotec cette semaine. Il faut le temps de monter en puissance pour les produits de substitution de façon à ce qu'on puisse assurer des IVG et des déclenchements d'accouchement avec les médicaments existants. Donc c'est une question simplement de passage de relais qui nécessite un petit peu de temps pour que des personnes, en fait, des femmes, ne soient pas en difficulté pour accéder soit à un accouchement, soit à une IVG médicamenteuse.
Espérons que Virginie soit rassurée. Une dernière question avant de nous quitter, c'est sur le cannabis, Agnès Buzyn. C'est aussi un sujet de société, beaucoup de consommateurs en France. Il va y avoir une amende que le gouvernement souhaite mettre en place plutôt qu'une réponse pénale pour une première consommation. Les opposants à cette amende disent que c'est renoncer à une politique de santé publique. Est-ce que là aussi, dans votre intime conviction, vous pensez que c'est une réforme nécessaire et indispensable que de contraventionnaliser la consommation de cannabis ?
Oui, moi je pense que nos forces de police aujourd'hui, notre justice surtout, on sait qu'elle a mieux à faire aujourd'hui que de regarder chacun individuel de chaque consommateur de cannabis. Nous savons qu'il est consommé, nous savons que c'est un problème, mais aujourd'hui la priorité pour la justice, je pense qu'elle est autre et que les Français le comprennent.
Donc, juste une toute petite question, le médicament vendu à l'unité en pharmacie, c'est pour quand ?
Agnès Buzyn.
Alors, c'est aussi un sujet complexe.
Oui, mais on a très peu de temps. Dites-nous quand.
Il y a des plus, il y a des moins. Il y a des plus en termes de gabegie, donc ça évitera des gabegies. Il y a un peu de risque en termes de traçabilité du médicament, avec des risques qu'on ne soit pas capable de voir si un médicament, par exemple, donne un effet secondaire, à quelle boîte il appartenait. Donc voilà, c'est technique.
Donc, ça sera pas pour
ça
tout de
n'est pas
suite.
Une question de principe, arrêtons de faire de tout une question de principe. C'est technique et donc il faut qu'on le résolve techniquement.
Merci beaucoup, Agnès Buzyn. C'était votre premier grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Écoutez, rediffusion de cette émission sur LCI à 21h ce soir et le MacPoll de RTL à partir de 18h30. Merci à tous, très belle journée, très bon dimanche, à la semaine prochaine.
Vous écoutez RTL.